Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
J'imagine, Christelle, qu'on va commencer par parler des APL, parce qu'il y avait eu le coup de rabot de 5 euros de 2017 qui avait déjà beaucoup fait parler et protester. Et puis, il y a là, maintenant, et c'est la Fondation Abbé Pierre qui a levé le lièvre.
Qui a levé le lièvre, parce qu'en fait, il y a le gel des APL qui sont censés être valorisés au 1er octobre, mais ça a été voté dans la loi de finances 2018, c'est-à-dire à l'automne l'année dernière.
Exactement, et il a été voté que bah, il n'y aurait pas, de mise à niveau en fonction de l'inflation, donc gel pour 2018. Pour l'instant, vous êtes partagés sur RTL.fr, on va voir ce que vous en dites au 3210, mais peut-être on peut aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bonjour Laurent.
Quelle est la température ?
Eh bien, quelle grosse maladresse, énerve Yves. Le gouvernement touche le fond, zéro pointé pour les conseillers en communication. Ah, ces politiques qui pratiquent le ruissellement vers le haut, nous dit Fabien. Pomper les pauvres, arroser les riches, sacré Manu. Oh là, attendez, répond Marie. On dit Monsieur le Président, pas Manu. Gwenaël approuve ce gel. Les gens râlent pour 5 euros d'APL en moins alors qu'ils dépensent à tout va. Mais non, ce n'est pas une solution, réagit Nadine. Il faut plutôt revoir le mode d'attribution. Et pour Thierry, Emmanuel Macron préfère faire des économies sur le dos des moins aisés plutôt que sur sa vaisselle.
Eh oui, et ça, l'étiquette de président des riches, on va sans doute lui recoller sur le dos ou sur le front, j'imagine, avec cette polémique autour des APL et du gel pour 2018.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Soyez la bienvenue, vous habitez dans la Marne.
J'habite dans la Marne, à Reims, très beau pays, j'adore. Voilà, donc je suis intervenue, et puis merci de prendre mon appel, parce que justement, concernant un peu cette... Ces espèces de, on va dire, un peu de restrictions un peu sur certaines choses. Là, je voulais m'exprimer en disant que moi, je suis scandalisée sur la différence qu'il peut y avoir entre... Enfin, c'est plus qu'une différence, c'est vraiment carrément, c'est un canyon. Hein, entre les gens qui travaillent, moi j'ai une fille qui travaille beaucoup, croyez-moi, elle travaille beaucoup, beaucoup. Ouais. Elle travaille très tôt le matin, son mari est policier, donc vous savez un petit peu, enfin il est dans la police, il est dans un secteur, donc c'est pas non plus des revenus.
Là, oui, bien sûr, et puis ça aussi c'est du boulot, c'est aussi un sacré boulot.
Mais c'est
boulot,
du boulot aussi, c'est du boulot, puis parfois c'est aussi de la dangerosité, c'est
exactement.
Plein de choses et
c'est
tout.
Pas facile.
Avec aussi, ils ont aussi parfois, ils sont obligés d'astreinte, etc.
Mais alors, quel rapport avec les APL, Michel ?
Avec les APL, c'est que je trouve complètement anormal que le gouvernement ne vienne pas faire une étude sur chaque dossier, parce que je considère, moi, avec les APL, avec beaucoup de choses, que beaucoup de gens, aujourd'hui en France, je suis une fille d'immigrée, moi je suis d'origine polonaise, donc que les gens ne viennent pas, que le gouvernement ne vienne pas étudier chaque dossier pour voir s'il y a des exagérations ou si c'est légitime. Et ça ne peut pas être justement taxé ou pas taxé selon une loi qui va être votée, qui va être faite. C'est simplement aussi qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ça. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient « Ah ben, je prends un appartement, voilà, ben avec les APL, je n'aurai que ça à payer. »
Il y a aussi un effet pervers, il y a aussi un effet pervers du côté des propriétaires qui louent des appartements un peu plus chers parce qu'ils comptent sur le fait que le locataire aura de toute façon une allocation logement.
Oui, mais il y a aussi, si vous voulez, les HLM, etc. Donc, on octroie aussi. Ça, je suis d'accord avec vous pour qu'il y ait effectivement un effet pervers. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, en France, on a vraiment, si vous voulez, malheureusement, des personnes, certaines personnes, pas toutes, les personnes qui sont dans le besoin et tout, oui, il faut faire. Mais il y a tellement de personnes qui utilisent le système, ils connaissent bien. Moi, j'estime aussi, comme je disais avant tout à l'heure à votre personne là, qui répondait, qui était charmante, je disais juste, moi, j'ai une fille, elle a deux enfants. Elle travaille beaucoup. Les petits sont levés à 6h30 du matin pour aller à l'école. Là, elle vient d'avoir sa note d'impôt, comme elle a fait sa déclaration ou quoi. Elle me dit, je ne peux pas partir en vacances. Son mari travaille aussi. Donc, si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une telle différence entre certaines personnes qu'il faut aider. Je veux bien, mais il doit y avoir un suivi. Je ne trouve pas normal. Excusez-moi, tout à l'heure, j'étais, parce que je suis une très fidèle auditrice.
Ah, ben ça, c'est bien.
De RTL, tout le temps, moi. Attendez, je vis en fonction de ça. Bon, et il y avait une femme qui disait, elle a six enfants, là, il fallait l'aider, elle a six enfants, père, Mais où est le père ?
Alors, bon, ce que je vous propose, Michel, parce que là, on doit faire un petit peu de pub, c'est de rester avec nous, et puis ensuite d'écouter avec nous Simone, qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Elle a quelque chose à dire, Simone, sur cette question. Elle vit, nous dit-elle, sous le seuil de pauvreté. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Approuvez-vous le gel des aides au logement pour 2018? On en débat tous ensemble au 32. Vous êtes partagés d'ailleurs sur RTL.fr. Vous dites non à 46% et oui à 45%. C'est dire si le débat est vif. On est ravis d'accueillir Simone qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Simone.
Bonjour Simone.
Oui, bonjour madame.
Soyez la bienvenue. On entendait Michel à l'instant qui disait mais il faudrait quand même cibler finalement ces APL pour être sûr qu'il n'y a pas des gens qui abusent. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Écoutez, peut-être qu'il y en a qui abusent, mais ceux comme moi, vous savez, tout le monde se sert sur le comment ça s'appelle, les comptes qu'on a, hein ? On se sert.
Oui.
Alors moi, j'avais peut-être, je ne sais pas, 140 ou 149 ou 150 euros d'APL, et ben t'as 146, et puis encore 5 euros. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je vais quoi, m'asseoir devant la cathédrale, et puis je dirai la charité, s'il vous plaît.
Alors, le montant de vos APL ne va pas diminuer de 4 à 5 euros. Hein. Il ne va pas augmenter. Et donc, il ne va pas tenir compte de l'inflation et de la hausse du coût de la vie, c'est ça?
Oui, mais ça n'a jamais été, hein.
Si, normalement c'est indexé. Et là, ça a été gelé. Mais voilà. Normalement, vous auriez pu potentiellement avoir
3-4 euros.
Voilà,
de
un
plus,
petit peu moins de 5 euros par mois.
Voilà, parce que le sur Macron, vous savez, est-ce que je peux vous dire deux minutes la dent que j'ai contre lui?
Bah, allez-y, Simone. Hein,
voilà, alors écoutez, le sur Macron est marié avec une divorcée.
Oui, et alors enfin, oui.
Bon, alors moi, imaginez-vous que moi, je suis divorcée. Moi, j'étais obligée de divorcer parce que je n'en pouvais plus, n'est-ce pas? Et du fait que je suis divorcée, parce que c'est le vendu enchaîné, n'est-ce pas? Depuis que j'ai divorcé, on me refuse la reversion de mon ex.
La pension de reversion.
Vous êtes divorcée.
Voilà, parce que je suis divorcée. Non, mais attendez, il ne faudrait pas que je prétende, parce que je suis tellement excitée.
On comprend votre colère aussi.
Non, mais
hein.
Ce qu'on entend, alors, Simone, c'est que pour vous, cet appel, c'est essentiel dans vos revenus.
Non,
vous en avez besoin.
Mais madame, je ne sais même plus à combien il est seuil de pauvreté.
Je me souviens plus. C'est pas autour de 800.
Mais je crois qu'on est aux alentours de 850 euros par mois, quelque chose.
Non, c'était pas 1000 euros quand on, des fois j'entends.
Je ne sais plus. Là, franchement, vous nous prenez au dépourvu.
Oui, mais bon, écoutez, alors, moi j'ai une retraite. Oui. Dites-moi, j'ai une retraite qui est de 768 euros.
Oui.
Alors, j'ai quelques retraites complémentaires parce que moi, vous savez, j'ai pas attendu. Vu mon âge, pour changer de boulot. Moi, quand ça n'allait pas dans le boulot, moi, je partais, et le lendemain, je retrouvais du travail. Hein.
Ben oui, les temps ont bien changé, hein, là-dessus.
Ah, non, mais attendez, c'est pas moi qu'il faut le dire, parce que je sais, hein, j'ai de la famille qui aussi a des problèmes. Mais le sur-Macron, mais alors ça, je comprends pas, les divorcés. Parce que moi, imaginez-vous, vous souvenez de la guerre 39-45 ?
Ben oui, je m'en souviens pas, mais effectivement.
Parce que vous n'y étiez pas. Ouais, alors, voilà. Moi, imaginez-vous que moi, la guerre 39-45, moi, je l'ai vécue. Hein. Et comme par hasard, je me suis mariée avec quelqu'un qui avait été déporté.
Oui.
Vous savez, les camps d'Auschwitz, l'Allemagne, tout ça. Alors, voilà. Alors, j'ai dû divorcer parce que j'ai été dans un état lamentable. Je n'en pouvais plus.
Oui. On entend bien votre histoire. Mais on se déporte un petit peu du sujet.
Cela dit, vous avez raison. Le seuil de pauvreté, on est un petit peu autour de 1000 euros.
On a vérifié.
C'est vous qui aviez raison.
Pendant ce temps-là. Merci en tout cas, Simone. Et on entend à quel point c'est important pour vous, ces aides au logement. Merci beaucoup. Et merci aussi à Michel qui nous avait appelé juste avant. On fait une petite pause et puis on va changer de sujet parce que c'est vous qui l'avez décidé. On va revenir sur l'autre polémique du moment.
80 km/h, voilà. J'imagine.
Et plus 90.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Ah si, il y a bien un sujet qui vous fait réagir en ce moment. C'est les 80 km/h qui vont donc s'appliquer à partir du 1er juillet sur environ 40% du réseau routier en France. Il s'agit de ces routes secondaires à double sens. mais sans séparateur central. Voilà.
Vous avez bien retenu la
quand vous serez sur une route comme ça, dorénavant, ça sera 80 km/h. Faut le savoir, parce que s'il n'y a pas de panneau, il y aura la sanction qui risque de tomber tout de même. Et je voudrais savoir ce qu'en pense, tiens, Jean-François, c'est un professionnel de la route, Jean-François, il est routier. Il est dans l'Indre, hein, du côté de Tours, je crois. Bonjour Jean-François.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors
Les 80, je trouve ça un petit peu débile, comme j'en parlais avec le standardiste tout à l'heure. Moi, je fais actuellement une ligne assez régulière. Je suis pratiquement à la même route tous les jours. Ouais. J'ai des tronçons qui sont ce qu'on appelle vulgairement un tapis de billard.
C'est-à-dire
Route parfaite, ligne droite, dégagée.
Route parfaite, ligne droite, dégagée. On voit visibilité 3 km devant. Enfin, j'exagère, mais enfin, voilà, on voit perte de vue. Il n'y a quasiment aucun carrefour, parce que c'est notamment ça passe en plein milieu d'une grande forêt domaniale. Donc au pire, ce qu'on peut croiser, c'est un chevreuil ou un sanglier.
Remarquez, un chevreuil ou un sanglier à 90 km/h, ça fait plus de dégâts qu'à 80. Enfin, remarquez, à 80, ça en fait pas mal.
Ça fait même à 70.
Oui, mais même à 50 d'ailleurs.
Ça
mais
fait
bon.
Beaucoup de dégâts.
Non, mais la vitesse est toujours un facteur aggravant dans un accident. Toujours.
Oui. Je vais pas aller contre.
C'est le principal problème. Jean-François, qui approuve, pardon, je vais vous contrer 5 minutes, arguments contraires aux vôtres, mais justement, du côté des autorités, ils expliquent que ce sont souvent sur ces tapis de billard dont vous nous parlez qu'il y a les accidents les plus dangereux, parce que là, on se lâche sur la vitesse, parce que justement, la route, elle est en très bon état, et du coup, on y va un petit peu plus fort. Et c'est à ce moment-là que surgissent les accidents.
Honnêtement, là, le tronçon auquel je pense, c'est un tronçon qui est très très connu. Je crois que c'est 12 ou 13 kilomètres de ligne droite qu'il y a. Avec sur les 12 ou 13 kilomètres, il doit y avoir 3 carrefours. C'est tout.
Mais voilà. Sur ces routes à double sens, sans séparation, il y a aussi des chocs frontaux qui arrivent. Il n'y a pas forcément besoin d'un carrefour, hein.
Ah oui, il n'y a pas besoin d'un carrefour. C'est de quoi je parle. Je vois des abrutis toute la journée.
Et dépasser sur ces routes-là, vous devez voir de temps en temps des types qui déboîtent et qui, en venant face à vous, qui déboîtent pour doubler et qui se rabattent au tout dernier moment.
Moi, j'ai été victime au mois d'octobre d'une personne comme ça.
Et voilà.
Ça m'a coûté 4 mois d'arrêt de travail.
Parce qu'il y a eu un accident.
Oui.
Ah, c'est terrible. Ouais.
Avec 6 heures de fermeture totale de la route. Et pour en revenir donc aux endroits plutôt assez dangereux. Donc des cas comme ça où le tronçon là que je vous parlais, il n'est pas réputé accidentogène.
D'accord. Donc finalement vous êtes d'accord avec notre invité de tout à l'heure, Monsieur Lagarde, qui disait qu'il faudrait adapter finalement 80 ou 90 au cas par cas en fonction des endroits les plus dangereux.
Sur mon trajet habituel, il y avait pour raison de travaux, il y avait une déviation. Je faisais un détour de 6-7 km, une route que je connaissais bien aussi, qui est limitée actuellement à 90, qui va passer à 80. Je peux vous dire, même à 80, c'est impossible de la prendre, que ce soit en poids lourd comme en voiture.
Même là, c'est dangereux. Cela dit, on peut très bien descendre la limitation de vitesse. Mais restez avec nous, Jean-François, parce que ça serait bien que le dialogue s'engage. Et je pense que Marc, qui nous appelle des Charentes, a peut-être un point de vue différent. Je dis peut-être, je ne sais pas, mais je vois sur sa fiche qu'il a tenu une auto-école pendant 50 ans. Donc on va dire que c'est un homme d'expérience, comme vous d'ailleurs, Jean-François, qui nous parle. Bonjour Marc.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci.
Bienvenue.
Alors oui, 50 ans, c'est l'expérience, comme vous dites, mais méfions-nous de l'expérience. C'est l'excuse des vieux, dit-on.
C'est vrai, paraît-il.
Et je préfère celle de Confucius, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Alors, oui, j'interviens parce que j'écoute toujours votre émission, en tout cas chaque fois que je le peux.
Merci.
Et quand on parle de sécurité routière, que ce soit la radio ou la télévision, j'ai l'impression qu'on veut tuer la sécurité routière, j'en sais rien. Ce que je veux dire, pour être bref, les statistiques démontrent toujours que c'est seul au volant, sur une route rectiligne, plate, avec un bon revêtement, une chaussée normale et dans des conditions normales. 76%, 75%, 96% sur un revêtement normal.
Le on tapis de billard dont nous parlait Jean-François à l'instant. Hein, il nous disait
on appelait ça l'homéostasie du risque et vous l'avez abordé très bien, je vous remercie. Mmh. En effet, lorsque je ne sens pas le danger, j'ai tendance à prendre des risques. Je ne suis pas idiot. Quand je vois un virage dangereux, quand les conditions atmosphériques sont désastreuses, etc., j'évite de prendre des risques. C'est une évidence. Hein, on n'a pas besoin de mettre des limitations de vitesse dans des virages en S. N'importe lequel de nous, conducteurs, doit adapter son allure. D'ailleurs, quand on parle de vitesse, me semble-t-il, on parle toujours d'excès de vitesse. Mais ce n'est pas celle qui tue forcément. C'est la vitesse excessive. Et comme disait un ancien pilote que j'ai côtoyé, quand on n'est pas capable de faire tenir sa distance d'arrêt dans sa zone de visibilité, bien sûr qu'à ce moment-là, n'importe quel obstacle, on va le heurter. Et c'est ça qui est dangereux.
Alors les gens n'ont pas du tout conscience de la distance d'arrêt, hein, entre nous, Marc, franchement.
Eh bien, écoutez, faisant des stages de permis à point depuis que le permis à point existe, hein, j'étais à DSR à l'époque, c'est vrai que quand on pose la question aux gens, ils l'ignorent complètement.
Ils ne savent pas.
Dans toutes les auto-écoles, on l'apprend. Il suffit de prendre le carré de la vitesse. Rappelez-vous, je roule à 100 km par heure, 10 fois 10, 100 mètres pour m'arrêter. Je roule à 80, 8 fois 8, 64 mètres pour m'arrêter. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des exemples devant les yeux. Un terrain de foot qui fait 100 ou 110 mètres, un terrain de basket qui en fait 30, vous voyez.
Et ce matin, d'ailleurs, je précise juste, ce matin, Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, qui était l'invité d'Yves Calvi, rappelait qu'en passant la vitesse de 90 à 80 km heure, on gagnait 13 mètres d'arrêt.
Absolument, absolument. Mais vous savez que un obstacle à 60 mètres, j'ai calculé devant des gens l'autre jour, on tape l'obstacle, en étant à 90 bien sûr, à 19 km par heure,3. Et bien ça fait très mal, taper dans quelque chose à 19 km par heure.
C'est très violent. Jean-François, vous qui nous expliquiez que lorsque vous êtes sur un tapis de billard, comme vous dites, il n'y a pas de raison de limiter la vitesse à 80 km/h, est-ce que vous êtes convaincu, ou en tout cas, est-ce que vous entendez les arguments de Marc ? À savoir que quand c'est tout droit, c'est dégagé, c'est peut-être justement là qu'on se met en danger.
Alors moi, pour ce qui me concerne, la vigilance, maintenant, avec l'expérience, la vigilance, elle est systématiquement multipliée par 5, voire par 6. Parce que, quand je vois tout ce que je vois, quand on parle, par exemple, de distance de sécurité, elles ne sont jamais assez longues. Elles ne sont jamais assez longues. Et quand je vois que des fois je me fais doubler justement dans ces grandes lignes droites, qu'il y a un zébra un petit peu plus loin, que le dépassement se termine complètement sur le zébra et que la personne se rabat devant moi, qu'on voit même pas la plaque d'immatriculation tellement qu'il est proche. Il faut être kamikaze, quoi.
Donc, Marc, vous dites, c'est une bonne mesure, et il faut. Vous êtes d'accord avec le gouvernement pour dire c'est une bonne mesure, et il faut l'étendre à toutes les routes secondaires.
Accepter que je ne prête pas de décision de ce côté-là, mais moi, pour moi, la loi, c'est la loi. Hein. C'est de l'ex, vrai de l'ex, hein. D'accord. Mais si ça doit faire bénéficier à la sécurité routière un nombre moins important de tués et de blessés, on oublie trop les blessés, tant mieux. On verra s'ils tiennent leurs engagements d'ailleurs, hein, parce que s'il y a des amendes qui sont données, j'espère qu'elles sont vraiment distribuées aux hôpitaux, etc.
Ça a été promis, apparemment il y a une ligne budgétaire qui sera totalement dirigée vers les hôpitaux. Bon, vous pouvez rester en ligne, Jean-François et Marc, hein, vous faites ce que vous voulez. On marque une pause et dans un instant on va accueillir Jean-Paul qui nous appelle de Corrèze. Vous savez que beaucoup dans les campagnes on dit notamment c'est quelque chose qui vient de Paris, mais à Paris, ils ne seront pas concernés. C'est quelque chose qui concerne les territoires. Et lui, en Corrèze, Jean-Paul, il nous dit cette affaire, c'est juste une arnaque.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et on évoque toujours avec vous le sujet du moment qui fâche, le passage de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires à partir du 1er juillet. Les recours se multiplient devant le Conseil d'État. Et votre colère ne redescend pas au 3210 et sur Facebook, sur notre page. Les auditeurs prend la parole, Laurent.
Oui, Christelle, nos responsables peuvent toujours s'agiter, nous dit Estelle. Ils ne feront que brasser du vent. Rastafa est très ferme. Je fais 60 000 km par an pour mon travail. Je ne vais pas appliquer cette baisse. J'ai testé une fois, c'est juste impossible. David invite Édouard Philippe à l'accompagner dans sa voiture. Ils se rendront compte très vite qu'il y a des problèmes plus importants. Le dépassement de la ligne continue, le passage au feu rouge et j'en passe. Tout est en place pour nous piéger, rajoute Vasco. Et bien, le plus simple pour éviter de payer, c'est de respecter les règles, répond Catherine. Nord a réduit de lui-même sa vitesse de 10 km/h pour sa sécurité. Et si je suis en retard pour mon travail, eh bien, je préviens simplement mes clients. Résultat, j'ai toujours mes 12 points.
Eh bien voilà, on voit que quand même, les avis sont partagés, hein, même si la grogne, à l'évidence, l'emporte assez nettement. Et j'imagine qu'il est du côté des grognons, Jean-Paul, donc, qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Oui. Je suis un peu du côté du grognon, si on veut. Oui et non, mais bon, il y a du bon et il y a du bon et du pas bon dans tout ça.
Oui.
Mais enfin, j'estime que si de 80, j'écoutais le monsieur là, de 90 à 80, c'est pour moi, enfin, c'est possible mais pas possible. Oui. Alors, on se fait, bien sûr, il y aura certainement de contrôles de plus en plus. Nous, dans nos routes de petite campagne, moi, je ne pourrais pas le respecter, je le sais. Et donc, je sais qu'à la fin de l'année, j'aurais plus de permis.
Mais pourquoi vous ne pouvez pas le respecter? Vous dites...
Mais parce qu'on ne fait pas attention, on est habitué à rouler dans nos petites routes, nos petites départementales à 90, et puis voilà, et c'est le problème de tout le monde en parle, quoi.
Mmh.
C'est pas. Bon, je ne dis pas que c'est peut-être pas tout mauvais, mais.
Non, mais vous allez y penser, que... Jean-Paul.
Vous ne pensez pas non, que c'est une habitude non, que vous pouvez prendre pas.
Mais je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas, parce qu'on est toujours pressé pour le travail, pour ci, pour là. Et puis voilà, quoi. Et puis bon, je pense que dans mon cas, il y aura beaucoup de Français. Hein.
On ne gagne pas grand-chose en temps gagné, finalement. Hein, ça dépend des distances que vous parcourez, évidemment, mais on ne gagne pas grand-chose.
Je le sais, j'en suis conscient, mais après, moi, pour moi, c'est plus du business qu'autre chose. Quoi, parce que tout le monde va se faire avoir. Ça, c'est sûr, tout le monde en parle.
Ah, vous voulez dire que les radars vont chauffer, c'est ça
bien sûr, pour moi, c'est ça. C'est tout. Bon, je ne dis pas qu'il y a pour la sécurité, que c'est un mal, hein. C'est pas ce que j'ai dit, attention, mais...
Moi, mais c'est intéressant
mais oui,
parce que...
C'est votre sécurité aussi, Jean-Paul.
Oui, j'en suis conscient. Mais on a essayé avec ma femme, vous savez, on roule quand même pas tous les jours.
Ouais.
On a essayé, c'est pas facile, quoi. J'ai écouté le monsieur, le chauffeur routier, c'est quasiment impossible, quoi. Vous êtes toujours dans les lignes droites. Moi, je vois, tous les matins, je pratique en allant faire tourner mes bêtes. Je suis toujours à 100, 110, alors je me ferai avoir à chaque fois. C'est pas compliqué.
Si vous êtes à 110, surtout, ça sera un gros excès de vitesse, parce que ça fera 30 km/h au-dessus.
Tout à fait, j'en suis conscient. Mais je tomberai peut-être au mauvais moment, peut-être au bon moment, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il faudrait surtout que le gouvernement refasse nos routes, surtout. Garde de l'argent, au lieu de distribuer n'importe où, n'importe comment, garde de l'argent pour refaire nos routes, parce qu'on a des routes pourries. Quoi.
Cet argent ira aux hôpitaux, parce qu'il y a quand même 24 000 blessés graves par an sur les routes.
Oui, mais ça c'est très très bien, c'est sûr.
Bon.
Mais c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte de tout ça. Quoi.
Marc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Paul?
J'ai envie de lui dire que je souhaite qu'il ne lui arrivera rien, hein, mais simplement... Ce que disait Sénèque, c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le fait pas que c'est difficile. Il faut essayer. Mmh. Et quand on essaie, souvent, on adopte.
Je peux vous dire qu'on dit souvent que c'est une mesure prise à Paris, parce qu'à Paris, on n'est pas concerné, mais lorsque la baisse de la limitation sur le périphérique parisien est passée de 80 à 70 km/h, tout le monde disait « je ne peux pas parce que je n'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude de rouler à 80 ».
Et c'est devenu un réflexe.
Voilà.
Et c'est devenu un automatisme, tout le monde roule à 70. Et ça, de toute façon, ce qui est dans les accidents considérables, c'est le différentiel de vitesse. Rappelons-nous quand même, j'ai commencé en 65, j'ai connu les non-limitations, non-ceinture, etc. Mais à partir de 72, quand on fait l'historique, chaque fois qu'une mesure a été mise en place, qui a été discutée, à chaque fois, il y a eu baisse. On est passé de 16 617 à 3 471 à peu près. Hein.
Voilà. Avec un trafic routier qui a triplé, je crois.
On a multiplié. Bon, bien sûr que c'est pas perdre des points, c'est agaçant, perdre son permis, ça l'est beaucoup plus, mais il y a plein de gens qui ont changé leurs habitudes. On ne voit plus dans nos stages que je fais avec la prévention routière depuis qu'ils existent, on ne voit plus des gens se faisant prendre en excès de très grande vitesse, au-dessus de 50 km par heure. Il n'y en a quasiment plus. Donc les gens, petit à petit, rentrent dans le rang. Et ne s'en portent pas plus mal. Si vous permettez, je prends un exemple toujours. Hein.
Oui.
Lorsqu'il y a beaucoup de monde, notamment sur l'autoroute, il y a des ralentissements, etc. Et dans les embouteillages en ville, est-ce qu'il y a le plus de tués ou pas? Non. C'est bien parce qu'il y a une régulation de la vitesse qui se fait automatiquement. On va moins vite, on se suit les uns les autres. Alors je partage l'avis du monsieur d'avant, les distances de sécurité non respectées.
Oui, oui ça c'est
là, on
sûr.
On est bien d'accord là-dessus. Hein. Mais quand on roule à peu près normalement, eh bien ça se passe beaucoup mieux. Et quant à la vigilance, à n'importe quelle vitesse, la vigilance peut baisser. C'est le cycle normal dans notre cerveau, hein, d'accord, avec tous nos sens. Et c'est vrai que les autoroutes, les lignes droites font que les sens n'ont plus de travail à faire, puisque en fait, je n'ai qu'à regarder la route, voire penser à autre chose. Et c'est là que la vigilance diminue, bien évidemment. Moi, j'ai vu des gens en expérience sur autoroute passer de 130 alors qu'ils n'avaient pas envie de perdre de points à 140, 150, et s'en rendre compte, 18, qu'est-ce que je fais à cette vitesse? Lever le pied d'un seul coup. Ils n'avaient pas eu l'intention d'aller plus vite, mais ils y étaient allés parce que la
ils
vigilance
ont eu l'inattention, en tout cas.
Par la monotonie, etc., l'attention.
Absolument.
Voilà. Je pense que c'est comme ça. Maintenant, ça va être difficile, mais je crois qu'il faut essayer de convaincre les gens des avantages. Il y a des inconvénients, certes, mais il y a peut-être des avantages aussi à faire en sorte que la vitesse soit respectée et puis que chacun vive à peu près le mieux possible sans avoir de problème, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette séquence. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat, Marc, Jean-François et Jean-Paul. On va faire une pause et puis on va changer de sujet.
Oui, on va parler de la vie après le cancer. À la lumière d'une étude qui a été effectuée par l'Institut National du Cancer qui nous montre que 5 ans après le diagnostic posé, 63% souffrent encore de séquelles, mais ça veut dire que près de 40% en sont visiblement sortis, en tout cas au niveau des séquelles. Et bien, on attend vos témoignages, vos réactions, vos commentaires. On a déjà Martine et Michel qui ont fait le 32-10.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Il y a un avant et un après cancer dans nos vies. On en parle avec vous au 32-10, avec votre vécu. Il y a aussi déjà des témoignages sur Facebook, Laurent.
Oui, Christelle, 6 ans après son cancer, Sophie se sent moins résistante. Je marchais beaucoup il y a quelques années et aujourd'hui mon corps est fatigué. J'ai des difficultés pour récupérer. Il faut se battre au niveau professionnel également, nous dit Maria. Suite à ma maladie, j'ai été déclarée inapte pour raisons physiques. J'ai enchaîné 18 mois de formation pour retourner ensuite à la case chômage. C'est une double peine, mais aujourd'hui, je suis guérie et c'est finalement ça le principal.
Ah bah évidemment, c'est l'essentiel, mais c'est une double peine, nous dit-elle. Et j'ai le sentiment que eh bien, Martine et Michel ne sont pas loin de le penser. Bonjour Martine, tout d'abord, on va avec vous dans l'heure. Bonjour.
Bonjour, monsieur dame.
Bonjour, bienvenue.
Vous avez 58 Merci. Ans hein, aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je vais avoir 59 ans en fin d'année. Mmh.
Et il y a donc, 9 ans, c'est ça que le diagnostic a été posé
on m'a décelé il y a 9 ans donc, mon cancer. Et donc, ils m'ont commencé par une chimio, puisqu'ils ont voulu faire une chimio avant de m'opérer.
On va juste préciser, cancer du sein.
Oui, tout à fait. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, on a commencé par une chimio avant de m'opérer. Mmh. 6 grosses séances. Et ensuite, après, j'ai eu l'opération. J'ai recontinué des chimios jusqu'en 2011. Mmh. Et puis également, donc, entre deux, des rayons, 35 séances de rayons. Quoi.
Oui,
voilà.
C'était quand même un traitement assez lourd. Vous en êtes sortie, Martine ?
Je m'en suis sortie, oui, tout à fait, parce que je suis assez, quand même, je suis une battante, c'est ce que les médecins m'ont dit. Mmh. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours suivie, je dirais, en fait, des contrôles très réguliers.
Oui, c'est classique.
Et puis également, je vais toujours chez le kiné, une à deux fois par semaine. Parce que, moi j'étais commerciale comme métier, donc il a fallu que j'arrête, parce que je n'ai pas pu continuer.
Ouais.
Et puis là, aujourd'hui, en fait, j'ai du mal, si vous voulez, quand il faut que je me concentre sur une réunion ou sur quelque chose, j'ai du mal à me concentrer.
Mais vous avez repris un emploi ?
J'ai repris un emploi à mi-temps.
Oui.
Donc, de chez moi, j'ai réussi à trouver, en fait, un emploi. Donc, je travaille à domicile. De chez moi et sur lequel j'ai une personne qui m'a fait confiance. Mais je suis obligée de marquer tout si vous voulez, parce que je n'arrive plus à me concentrer, oui. Je n'arrive plus du tout à...
Vous êtes diminué, même si le pire est passé.
Vous êtes diminué,
Martine. Ce n'est pas comme avant, hein,
non, Martine. Pas du tout. Même serait-ce au ménage, en question, je dirais, ménage et autres, je ne peux plus faire ma maison comme je faisais avant. Je suis obligée de faire une pièce
plus vite.
Les jours. Quoi.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Je vois que vous habitez le département de l'Eure, peut-être dans un milieu rural. Vous conduisez, vous pouvez toujours conduire?
Oui, je peux toujours conduire. Par contre, j'ai un manchon de jour et j'ai un manchon de nuit. Parce que mon bras aurait tendance, voilà pourquoi je vais chez le kiné, parce que mon bras aurait tendance à gonfler. Bon, j'ai pas le gros bras par rapport à certaines dames qui malheureusement ont. Ouais. Mais parce que j'ai été en cure et je continue à aller en cure tous les ans, et qui est un bien vraiment très bénéfique dans ce domaine-là. Quoi.
Qui vous fait beaucoup de bien. Restez avec nous, on voudrait dialoguer rapidement aussi avec Michel qui est dans le Cher. Bonjour Michel.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez été diagnostiqué, je crois, en 2001, c'est ça ?
2001, oui. Pour un cancer de l'intestin et en même temps un lymphome, qui, on peut dire aussi un cancer. J'ai été soignée par chimiothérapie également. Et dans un premier temps, donc 2001, cancer de l'intestin et découverte du lymphome. Par bonheur, j'ai pas eu de chimio pour l'intestin, bien qu'on m'a enlevé la moitié du gros intestin. Mais le lymphome, c'est ce qui me tient le chaud depuis bientôt 16 ans. Oui. Je récidive à peu près tous les deux ans et c'est vrai, comment dire, maintenant je me suis habituée, je vis avec la maladie sans pour autant dire que je fais la part des choses.
Oui, je voudrais savoir, Michel, ce que ça a changé dans votre vision de la vie aujourd'hui.
Beaucoup de choses.
Bien sûr.
Comme je disais tout à l'heure au jeune homme au téléphone, j'apprécie toutes les petites choses de la vie. Le soleil aujourd'hui, par exemple, mon jardin, une petite fleur dans le jardin, mes petits-enfants surtout, que j'aurais pu ne pas connaître. Tout ce qui fait la vie, les choses simples de la vie, et qui sont importantes, tout ce qui nous entoure.
Des choses que vous ne voyiez pas auparavant.
Qu'on ne voyait pas auparavant chaque petite chose est elles sont merveilleuses.
Et ce qui avant pouvait être de petites contrariétés, aujourd'hui, j'imagine, ne vous touche plus du tout, parce que vous dites qu'il y a des choses quand même qui sont essentielles.
Plus du tout, mais comment dire, on se dit, ça va se réparer, c'est pas grave.
En tout cas, c'est un message d'espoir que vous voulez nous lancer, un message positif, Michel, pour dire, c'est difficile, mais on peut aussi trouver chaque jour des tas de petits bonheurs. Et merci d'avoir témoigné, merci aussi à vous, Martine. On vous embrasse très fort toutes les deux. On fait une pause et puis dans un instant, Laurent Gérard, pour rire.
Il est toujours là, Laurent.
Vous écoutez RTL.